J'accueille dans les studios Guillaume Messi d'Arlos, cofondateur de la marque de basket française Miko. Bonjour.
Bonjour.
Quel type de basket proposez-vous à la vente ?
Alors, on fait des baskets éco-responsables qui s'inscrivent dans une mission un peu plus large, qui est de replacer le monde sauvage dans le quotidien des gens.
Et alors, est-ce que vous avez différentes gammes et de quelle pointure à quelle pointure ?
Oui, aujourd'hui, on a deux collections. Un premier modèle qui s'inspire des modèles semelles plates des années 90 et un modèle un peu plus sportif type running. Et on va du 35 au 47.
Et sur quelle gamme de prix vous êtes ?
Entre 150 et 170 euros.
Et dans votre communiqué de présentation, donc vous dites soucieux du réchauffement climatique, de la pollution. Quelle alternative proposez-vous par rapport à cette production de baskets ?
Alors nous, notre leitmotiv, c'était déjà de proposer des modèles plus respectueux du vivant. Donc on s'est pas mal penché sur la question, on a étudié le sujet et on a identifié les principaux points d'impact de la mode et des baskets sur la biodiversité. Pour justement proposer des réponses adaptées à chacune de ces étapes. La première, c'est le bien-être animal. Donc tous nos modèles sont exclusivement vegan, il n'y a pas du tout de matière animale, même la colle qui est généralement issue du porc, c'est de la colle végétale. Ensuite, c'est la surexploitation des ressources naturelles limitées, comme la destruction des forêts ou l'eau. Donc là, on va sourcer des matières qui sont européennes, qui sont soit biosourcées, c'est-à-dire qu'il y a une part de naturel dedans, soit recyclées. Donc tous nos fournisseurs sont européens, espagnols, portugais ou italiens. Ensuite, on travaille avec une usine portugaise située près de Porto, qui est un atelier familial qui est géré de manière hyper éthique avec des gens qui sont payés normalement et qui travaillent à des heures convenables également. On est loin de ce qu'on voit avec les Ouïghours en Asie. La petite cerise sur le gâteau, c'est en termes d'énergie. C'est un sujet dont on parle très peu dans la mode, mais la plupart des usines en Asie sont alimentées par une électricité qui vient d'usines à charbon, donc l'énergie fossile. C'est un énorme point d'impact. Et nous, notre usine est alimentée à 80% par panneaux solaires. Donc voilà, résultat, on a une basket qui est... qui n'est pas parfaite, loin de là, on travaille encore pour améliorer, mais qui reste infiniment plus responsable que la grande majorité des baskets qu'on porte au quotidien aujourd'hui.
Et qui coûtent à peu près le même prix.
Exactement, avec des marges qui sont peut-être 10 fois plus importantes pour ceux et celles qui les fabriquent.
Donc vous vous engagez à réserver 30% de vos bénéfices à des ONG locales. Pourquoi est-ce important pour vous de reverser une partie de vos bénéfices ?
Le projet, quand il est né dans notre tête il y a une dizaine d'années, c'était comment on peut faire pour faire un truc qui nous fait kiffer, qui soit en lien avec nos études, etc., mais qui en même temps contribue à la protection de la vie sauvage et des espèces menacées. C'était vraiment l'idée de départ. On ne savait pas du tout ce qu'on allait faire, ni dans la mode, ni dans quoi que ce soit d'autre. Et du coup, très tôt, on s'est dit, quoi qu'on fasse, on veut utiliser la marque pour sensibiliser et pour avoir un impact concret. Au-delà de la simple basket, on voulait vraiment financer des hommes et des femmes qui luttent au quotidien justement sur le terrain, dans des petites ONG qu'on ne connaît pas et qui ont énormément besoin de ressources financières parce que l'argent pour ces structures, c'est le nerf de la guerre, quoi qu'on en dise. Et du coup, en 2019, j'ai fait un gros break et j'en ai profité pour aller voir justement certaines de ces ONG et découvrir comment elles bossaient, notamment à Sumatra en Indonésie. Et voilà, depuis, on reverse à peu près 30% de nos bénéfices à ces petites structures. Donc il y en a une à Sumatra, qui s'appelle le Sumatra Rainforest Institute, pour la forêt primaire indonésienne, qui est extrêmement riche, avec notamment des espèces très charismatiques comme l'orang-outan, l'éléphant, le rhinocéros, etc., qui sont malheureusement toutes en danger. Et une autre en Tanzanie, qui s'appelle la PAMS Foundation, qui agit un peu de la même manière que la Sumatra Rainforest Institute, pour la préservation de la savane africaine.
Et donc, pourquoi c'est important pour vous de soutenir ces deux ONG ? Parce que j'imagine que ça a été... pas facile d'en choisir.
De choisir, oui. Alors, pour Sumatra, ça s'est fait de manière assez, on va dire, rigoureuse. Je me suis basé sur la liste de l'IUCN des espèces menacées, la liste rouge. Et en fait, dans les 10 premières espèces, parce que malheureusement, il y a un classement, il y avait 4 espèces endémiques de Sumatra. Donc, c'est vraiment un joyau de biodiversité qui, à l'opposé, est extrêmement menacé. Du coup, je me suis dit que c'était très, très cohérent de faire un premier partenariat avec une ONG là-bas. Et après, pour la deuxième, savane africaine, je pense que c'est parce que j'ai été très fan du Roi Lion et j'avais envie de faire quelque chose là-bas. C'est un pays qui m'attire énormément et qui est pareil, qui est extrêmement riche et qui est assez dévasté par le braconnage, par l'exploitation humaine, etc.
Vous voulez replacer le monde sauvage dans l'imaginaire collectif. Qu'entendez-vous avec ce concept de monde sauvage? Parce que l'humain a depuis longtemps façonné les paysages naturels, et donc voilà, pourquoi ce terme-là?
Bah pour nous, le monde sauvage, ça va représenter aussi bien la forêt dans l'arrière-pays du sud-est, que la plaine du Kilimandjaro, que la forêt amazonienne. C'est tout ce que l'homme n'a pas justement encore touché et généralement détruit, malheureusement. Et en fait, on se rend compte que notre rapport à la nature et notre rapport à ce monde sauvage au quotidien, il est extrêmement faible, notamment dans les villes. Et comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, il y a pas mal d'études qui ont constaté que justement, on était de moins en moins sensible à ça, et c'est ce qui expliquait qu'on n'agissait pas assez vite, pas assez fort pour la préservation du vivant. Et certaines solutions qui sont préconisées, c'est justement, notamment pour les enfants, pas que pour les adultes, de replacer ce monde sauvage dans les imaginaires collectifs à travers des fictions, à travers des jeux vidéo, à travers des films, à travers des livres. Et nous, on a choisi de le faire à travers notre marque de basket. Donc ça passe par nos produits qui intègrent des éléments graphiques qui symbolisent des écosystèmes menacés, mais également par tout ce qu'on peut partager sur les réseaux, dans nos newsletters, nos partenariats, etc.
En tout cas, c'est important de rappeler quand même sur les imaginaires qu'il n'y a plus qu'une seule forêt vierge qui existe en Europe, et elle est en Ukraine, et elle est également malheureusement menacée, et que toutes les forêts, elles ont été construites par l'humain, et que ce n'est plus du domaine du sauvage, mais je vois bien ce que vous voulez dire pour autant par ce terme-là. Est-ce que vous pensez pouvoir lutter contre l'effondrement du vivant, justement, avec l'entreprise Miko?
Alors oui, on le pense, sinon on le ferait pas, mais on a conscience que là, à notre stade de développement, on a que 2 ans, on est encore une jeune marque, notre impact reste limité, mais malgré tout, on a quand même un impact positif, et c'est vraiment important pour nous. Après, c'est un effort collectif, et c'est pour ça qu'en fait, on veut que cette marque, elle touche une audience assez large, et qu'on vienne planter une petite graine chez les gens, pour qu'eux-mêmes, de leur côté, puissent mettre en place des actions qui soient en lien avec cette thématique-là, parce qu'au final, ça nous concerne tous, vu qu'on fait partie du vivant, et ça, beaucoup de gens ont tendance à l'oublier. Donc, protéger le vivant, c'est également protéger l'homme, parce que je pense que quoi qu'il arrive, la vie nous survivra si nous, on fait trop n'importe quoi.
Comment avoir choisi le nom Miko? Quelle est l'histoire un peu du nom de cette marque et du logo?
Alors, c'est 2 choses un peu distinctes. Le nom de la marque, Miko, ça... Donc, je parlais du Roi Lion tout à l'heure, de Disney. Bah, en fait, c'est le nom du petit raton laveur dans Pocahontas. Pour les petites histoires, je suis un fan de raton laveur. J'adore ces animaux, je les trouve hyper, hyper espiègles. Et c'était un animal qui symbolisait parfaitement la relation homme-vie sauvage dans ce dessin animé, je trouve, qui est assez forte et qui est vachement intéressante. Et le logo qui représente un orang-outan, c'est un clin d'œil à notre première ONG à Sumatra, et l'orang-outan qui est aussi une espèce hyper symbolique de la destruction de la biodiversité. Il y avait le panda qui est pris par une organisation qu'on connaît bien, et l'orang-outan qui est un super symbole aussi, et on sait qu'il génère beaucoup d'empathie chez les gens.
Dites-moi comment on peut vous suivre, retrouver les baskets.
Pour nous suivre, c'est sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Meiko-du-bas-shoes. On essaie de se mettre sur TikTok, mais ok, boomer, quoi. on n'est pas encore très chaud. Bon, on commercialise principalement sur notre site, meiko.store, S-T-O-R-E, et on est distribué dans un certain nombre de points de vente. Alors, dans la région sud-est, on est en train d'arriver, avec notamment une intégration aux Galeries Lafayette. Donc vous pourrez assez prochainement nous retrouver aux Galeries à Marseille.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur cette matinale.
Merci pour l'invitation.